Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici ensemble donc pour la suite de Un grand pas vers le bon Dieu de Jean Vautrin. Ce soir-là, toute la sainte journée, le ciel s'était fabriqué sa bile, avait jauni sa colère à force de rencontrer de hautes montagnes de nuages majestiques et formidables. Et maintenant que sa folerie de la nuit entourait les pieds des grands chênes, s'était fait. Les éclairs s'amusaient avec la mousse espagnole. Il croisait le feu qui tombe en l'allongeant sur le fil des eaux courantes, sur le croupi des marais de boue. Il portait la foudre jusque sur le genou des cyprès du bayou. Un ourvari de tambour pire que le sasakwa de Chief Kenimo, le dernier chef indien à avoir rendu son tomahawk. Edius Raquin avait gambo son dîner du soir. Il se tenait assis sous l'auvent dans sa grosse chaise bourrée, occupée à chaque côté une branche avec son vieux coutelas. Devant lui était son bouteillon de whisky, posé sur la table en bois rude, et il ne se passait guère de répit dans la colère d'orage sans qu'il tête son plaisir au goulot du flacon. Mélange de fatigue et d'énervement, il se sentait saoul en patate. Mais même dans l'état qu'il vient d'être dit, un peu bite et camphré, Raquin sourissait quand même à la pluie. Par mouillures successives, elle jouait à drum sur la tête des grands copals et musiquait un bon rythme. Edius avait posé sa branche et son couteau sur le banc derrière lui. Tout en réfléchissant au mariage de sa fille, il avait machinalement remonté sa manche de chemise sur son bras tendu par l'inflammation. Après examen des chairs meurtries, il expédia deux paters et deux ave. Il s'adressa à la Vierge Marie avec un grand sérieux. Le signe de la croix à peine terminé, il sortit une petite boîte de fer de la poche de son gilet. Il commença à appliquer sur la fluxion le baume recommandé par Pity Mlle Grandois, la grosse négresse de la pointe du Bayou. Mlle Grandois avait hérité une tradition de ses vieux ancêtres mandingos du temps qu'ils étaient esclaves. Elle savait se débrouiller pas mal avec des clous, de l'acier, de la cendre et même une aragne dans une coquille de noix suspendue au cou. Elle était également habile avec les décoctions de feuilles de mauve, les cataplasmes de bouillie de moutarde, le poma Christi et l'herbe à coquin. Mais la négroille se contentait pas de traiter des chouboulures, les verrues ou même les épidémies de va-vite quand le mal des boyaux faisait courir toute une famille au cabinet d'aisance. Elle distribuait aussi des gris-gris ou promettait la tataille aux enfants désobéissants. Bonne catholique avec ça, croyant en Dieu plus que quiconque, si bien que c'était toujours une obligation de prier pour les malades avant que la carbo entreprenne sa médecine. Jusqu'aux commerçants de Fine Prairie ou de Turkey Creek qui s'en venaient la trouver au fond de sa cabane tellement elle n'avait pas sa meilleure pour traiter le résipère, le mal anglais ou les mordures de serpents. L'index et le médium imprégnés d'onguent, Edius faisait entrer dans sa peau le mélange de graisse de cochon et de semences d'oignons blancs. Il sentait que le mal combattait dans tout son bras. Et demain, si l'infection résistait, il irait retrouver la traiteuse comme il avait promis, avec une poule noire dans un sac. Pareil que Mlle Grandois avait une qualité de remède infaillible avec le sang d'une galine. Soudain, frappé par un yatagan de lumière, Aetius releva la tête malgré lui. Un éclair autrement plus violent que tous les autres venait de transpercer la nuée. Sa main en visière devant le visage pour pas être aveuglé par cet éclat surnaturel, le laboureur vit crépiter une brisure qui traversait toute la cour. Une sorte de crête bleue et vivante, suractivée par la colère d'en haut, une force comme 1000 dynamites crédieux qui se mit à giguer en zigzag devant la maison. Croyant sa dernière heure pour tout de suite, Rakin crocha sa main libre sur sa bouteille de whisky. Mais avant qu'il eût pu dire « bouchon », la boule de feu avait caracolé 2-3 écarts imprévisibles. Sillonnant la terre noire, elle devint comète, prit une touffe de poils d'étincelles en cognant contre un mur, billa plus loin et, attirée par le soc d'une charrue, s'enroula sur elle-même, plus rotonde et secousse qu'une toupie folle. Sans même avoir compté 3, un nouvel éclair l'avait rejointe avant qu'elle s'éteigne, et pas seulement la cour fut doublement illuminée, mais aussi le hangar et le wagon dételé dont les ridelles faisaient des cornes au ciel. Pas fini ? Tout le feuillage d'alentour qui faisait mine de s'embraser dessinait un fond de théâtre, ombre et lumière, à la plus incroyable apparition qu'Aetius Rakin eût jamais vue. Un grand cavalier en cuir, dressé sur son cheval bronque, avec un pistolet dans sa main gauche et le bras droit pendu le long du corps et baignant dans son sang. Inondé par la clarté vacillante, l'homme, ses cartouchières entrecroisées sur son torse amaigri, poussa son cheval en direction de l'auvent. Les joues creuses de l'étranger étaient mangées par une barbe épaisse comme un buisson de fardoche. Plus près, il avait un regard insoutenable. Dans un élan des guides, il enleva sa monture et, aussi irréel qu'un cauchemar, la bouche de l'animal déformée par le mort démasqua des dents écumeuses qui s'approchèrent le visage de Rakin. Au fracas de la foudre déferlante s'ajouta le hennissement du grand bronque, une beuglée si folle comme un cri de terreur qu'elle fit venir à Aetius un froid glacial dans tout son corps. Pour lors, le sang retiré, il ferma les yeux. Dernière tentative pour rejeter ce qu'il prenait pour la chimère d'un loup garotte ou même de quelque fifolie sortie de l'âme d'un enfant privé de baptême. Caché frileux sous ses seules paupières, Aetius emporta en tréfonds de soie l'image d'un étalon cabré sous la déchirure des racachas, deux longs éperons mexicains qui fouillaient les flancs du cheval farouche. Rabougri dans sa chaise, il eut une pensée pour sa femme Basel, qu'il espérait au fond du lit avec la montre de son mari cachée au creux de ses cuisses à cause de l'orage, et il attendit la clabaudure. Comme elle n'arrivait point, il dessertit ses yeux, à peine de fente. Les ténèbres s'étaient brusquement refermées autour de la maison. Ébranlés par les derniers spasmes du tonnerre, les nuages s'ouvraient comme des vessies trop pleines. Il faisait de l'eau à grosses trempes sur le toit dont la pente pissait par rebond dans la cour, une rinçure à grandes eaux. Mais d'apparition, pas. Le cavalier et son garion avaient disparu tout de bon. Et Aetius n'en croyait pas son entendement. Oublieux de sa bouteille et ses genoux s'entrechoquant comme une sonnaille, il pensait qu'à aller son gratin. Sans quitter l'obscur de la nuit dans sa mire, il partit à reculons vers la porte pour s'engouffrer chez lui. Vite, il loqua la serrure et cléta à deux tours. Après 5 minutes, pour retrouver ses sens, il parvint à allumer la lampe et barra l'ouverture avec une planche en travers. Les gestes d'habitude lui revenaient à mesure. Son cœur tapait moins folle. Tout autant, il avait la tête en feu en traversant la salle. Il marqua un temps d'arrêt en passant devant la chambre d'Azeline et entr'ouvrit sa porte. En entendant la respiration calme et régulière de la jeune fille, il parut rassuré. Il aurait bien bu un filet d'alcool pour se lever son moral avant de rouler dans les draps, mais plutôt crever que ressortir affronter les esprits malins des rabats ciliaires. Sans bruit, il se glissa jusqu'à son lit et se débarrassa de ses artifailles. Basel reposait sur le côté. Elle avait une telle confiance qu'elle ne bougea même pas quand il récupéra sa montre entre ses cuisses à trésor. Elle détenait une chaleur de nid. Dehors, plus d'orage. Seulement la mouillure qui gouttait au bord du toit. Immobile près de sa femme, Raquin gisait les paumes en l'air, étendues sur le dos. Doucement, la fièvre s'emparait de lui. Pour oublier la tension de son coude qui battait, il pensa à du marbre et en caressa le fil. Comme la pierre devenait chair tendre, le mystère de la vie aiguisa un moment l'inconscient de la dormeuse. Basel poussa un râle, se tourna vers son époux et doucement caressa sa racine dans la tiédeur de sa paume. Derrière le voile du sommeil s'étendait un paysage de collines rouges survolées par des carancros ou charognards. Nous sommes morts depuis toujours. Reva Edius, dead, est devenu buzard à son tour. Il prit de la hauteur.
Why can't my baby be? Whoa. Why can't my baby be? You took my love and now you're goodbye. Whoa.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Un grand pas vers le bon Dieu après cette pause musicale. C'était une année de malsort. Ça se voyait à des signes. Tout calait de traviole. Le temps qui ondulait, la terre qui gerçait trop. Et dès que le soleil refroidissait derrière les nuages, c'était la pluie qui se mettait de la partie. Même les cabinets d'aisance étaient engorgés sous la force débordante de la trempe nocturne. Une mouillure de pluie qui infiltrait de partout, et le cacatoire, forcément, qui s'était répandu dans la cour. Ce matin-là, ça sentait pas les magnolias devant chez les raquins. Ça puyait formidable. Mais c'est pas tout. Il y avait d'autres présages pour annoncer la malchance. Le coq avait chanté sous l'escalier au milieu de la nuit. L'horloge s'était arrêtée comme pour saluer un mort. Et le chien Hip, à force de tirer sur sa chaîne, par peur inhabituelle, était arrivé à se libérer. À cette heure, le taillot battait la campagne. Un envahissement de cancrelats campait sur l'humide, croquait sous les bottes dans l'obscurité des remises. Mais plus inexplicable encore, la malice avait fait mourir 6 gros rats dans la chaudière à bouillir l'eau de vie. Au moins 5 gallons de magnane qu'on avait dû jeter dans le marais. Et après qu'Edius eût fait valoir qu'on pouvait bien garder le dessus du tafia pour l'offrir à ceux qui étaient trop soulards pour s'apercevoir du goût aigre, Vlatipa que voici Smith avait fait son arrivée en cabriolet. Tout faraudé, élégant, fier de son beau sout à rayures mis spécialement pour faire sa cour à Azeline, il avait poussé la porte au moment même où femme et fille étaient en train d'écrémer les entrailles des chaouis. Déjà surpris par le chapelet et l'odeur qu'il venait de traverser dehors, l'amoureux resta quoi sur le seuil à mi-donner dans sa devanture à cravate. Et voyant mieux la crevure sur l'écumoire, sa poche d'estomac se retourna de dégoût sur son cœur. Le prétendu devint pâle jusqu'aux joues, de grandes marbrures sur le cou. Et avant qu'il eût seulement dessiné haut avec sa bouche, commença à salir ses chaussures un peu tchoc. Edius, qui rentrait de nourrir ses mules, l'assit au plus pressé, fit un grand geste, plusieurs courades, aller-retour sur le plancher. « Prenez la chaise, voici, une petite goutte de café pour fumer !» Debout sur l'escabelle, Basel le guettait avec un œil sec et vacant. Azeline faisait de son mieux pour redresser son chignon qui goguait. Popraquin fit ce qui lui restait à faire. Tout sauta-t-il pour improuver la situation. Voici Smith, après une goulée d'air, saisit l'occasion qu'il avait de tout rattraper. Comme Azeline lui servait une jolie révérence en faisant mine de pas trop vouloir regarder ses chaussures toutes gâchées, donnant, le goglu ferma les yeux sur la charogne, sur la puanteur extérieure, et il sourit à la belle. « Je boirais bien une bière fraide !» bégaya-t-il tout doucement. Après, il mit le sujet de la conversation ailleurs avec un savoir-faire sans réserve, parlant des études qu'il aimerait entreprendre. « Je voudrais bien graduer dans la finance !» annonça-t-il avec une voix estompée. « M'employer dans une banque, bien que je parle pas en anglais aujourd'hui !» Il plongea le plus vite possible son grand nez au fond du verre tendu par Edius. Il additionna sa soif impressionnante avec un profond soupir d'homme malade. Basel Raquin en profita pour sauter de son perchoir. Elle disparut pour jeter ces bestioles qu'il fallait pas voir. Et bien sûr, avant que le témoin matinal d'une telle déshonorance se fût levé de son siège pour prendre congé, on avait dû déverser le reste du bon breuvage aux écrevisses. C'était ça ou passer pour des traîneurs. Un risque que pouvait pas prendre une famille cherchant désespérément à s'amarrer un gendre. Le garçon parti, les apparences sauves. Edius souhaitait se remettre. Il courut jusqu'à l'auvent où, la veille, il se rappelait avoir abandonné sa bouteille de whisky sur la table en bois de pin. Elle avait disparu. En massant son sacré bras qui l'élançait plus que jamais, il demanda à sa femme si elle lui avait pas carotté son jus de maïs personnel. Basel, en partance pour nourrir ses poules, lui répondit les yeux baissés sur son chemin. Sans s'arrêter ni rien, elle sautait d'une pierre sur l'autre en jambant la gadoue avec précaution. S'agissait pas de s'étaler dans la cagure. « Oh, qu'au fer, j'aurais touché à tes affaires, vieux cheval » demanda-t-elle dans sa lancée. Encore un bond et une fois à sec, elle ajouta « Oh, mais j'ai honte d'avoir un mari qui est bouteille aussitôt que le soleil se lève. » Edius haussa les épaules. Souvent, Basel avait le caquet trop long. Il ne répondit pas à la cancane. Il était plus tracassé par la disparition magique de son flacon que par n'importe quoi d'autre au monde, même avoir raison sur sa femme. En se hâtant, il descendit les trois marches conduisant jusqu'au devant de la maison. Le nez pincé pour filtrer les odeurs, il commença à patauger en cercle et en huit imprévisibles afin de retrouver au moins les traces de sabots du grand étalon. Mais sa patrouille ne donna rien. Il ne décela aucune empreinte de la veille. Énervé par l'accumulation de ces choses surnaturelles, il se rabattit sur sa fille au bout du corridor. « Hier au soir, fifille, j'ai vu un grand zombie monter sur un cheval bronque, » dit-il, comme si l'événement était du domaine du possible. « Il m'a menacé d'un pistolet !» La doucette qui vaquait à sa pratique de cuiseuse tenait en main une jugue de lait caillé et une brassée de petits oignons créoles. Elle s'arrêta pour regarder son père bien en face. « Lâche-toi, Pop !» « Depuis 8 jours, t'es terrassé par cette mordure. C'est la fièvre qui t'aura fait voir un mort. »«
Ah, il était là, j'en jure, et il n'y a plus de traces. »«
La sauce de cette nuit aura tout effacé, Pop. Tu ferais mieux d'aller te faire chiquer ton bras par Mlle Grandois. Elle te donne un charme pour tes visions. »«
Ah, c'est bien Dieu possible, » admit Edius en se grattant pensivement la tête.
Quand elle quitta son popa pour aller chercher ses légumes, Azeline remarqua qu'il avait l'air débranché. Les yeux vitrés et la bouche ouverte, il connaissait plus quoi dire. Il était tout écran et misère. D'habitude, avant de partir au champ, Raquin serait repassé par la cuisine. Il aurait soulevé le couvercle de la marmite pour respirer le fumet du gombo filé au crabe qui était son plat le plus goûtable. Au lieu de cela, Azeline le vit repasser 5 minutes plus tard devant son fenestron. Il portait un sac de toile sur son épaule et tenait son chapeau de paille enfoncé sur la tête comme s'il s'apprêtait à courir sous le soleil. Une fois qu'il eut franchi la barrière en peline dressée pour arrêter les bêtes, elle le suivit des yeux dans la passe. En débouchant dans la manche qui descendait au bayou, il devint plus méfiant que celui qui prépare un mal à faire. Il se retourna souvent de fois pour s'assurer qu'on ne le suivait pas. Après, il se mit à galoper fort, et le temps pour Azeline de sciller, sa silhouette blanche avait disparu au croissant de 2 centes. Dans l'air mobile, elle entendit monter le jappement aigu de plusieurs chiens. Rougeâtre entre les pins profilés sur le ciel, la terre des chemins, envahie par la fumée rampante d'un feu d'herbe, achevait de se transformer en mystère. Soudain oppressée, Azeline enferma ses seins dans la coque de ses mains et s'approcha du foyer où ronchonnait la soupe. Le crépitement des bûches envoyait au sol de capricieuses étincelles. Elle en effaçait machinalement les braises refroidies en les talochant de la pointe de ses souliers rouges. Elle comprenait mal comment les mauvais pressentiments arrivent. On ne les voyait pas venir, et cependant, ils étaient là. Depuis peu, elle entendait en elle le chant d'une voix grave et triste. Elle sentait que l'arrivée de quelque chose allait son train, que des événements s'étaient produits comme des poussières, quel serait l'enjeu d'une violence. Elle ne savait pas comment se protéger de ce qui n'existait pas encore, mais elle avait la certitude que rien ne la découragerait, même si le plus grand océan du monde essayait de la noyer. Elle soupira. Ses doigts commencèrent à réchauffer avec un léger fourmillement la pointe de ses seins glacés sous sa chemise. Elle attendait que les jambes d'un homme viennent se frotter contre elle. Elle était jeune, elle avait froid. Sous le soleil, elle attendait dans son ventre. Sa mère l'avait préparée. Elle accepterait les nuages. À la chaleur assommante de la route avait succédé l'ombre intime des sous-bois. L'arôme blanc aux feuilles en forme de flèche, les pudiques orchidées se partageaient en secret les cachettes de l'amas végétal. Perdu dans ses pensées, Pop Raquin évitait les embûches du chemin, un bombardement de trous dissimulés sous la perruque ébouriffée des herbes. Il progressait avec la sûreté d'équilibre d'une chèvre. Au chêne, à l'icorie, au magnolia, au pacanier des terres plus hautes, non sujettes aux inondations de la rivière en crue, avait succédé la foule frissonnante des cyprès chauves. Avec les chênes des marais et les érables roux, il partageait l'empire d'un noir limon gorgé d'eau saumâtre. Parfois, la levée de terre que suivait Edius serpentait au-dessus du niveau du bayou. Apparaissaient alors des îlots aux cernes bruns où s'accrochaient des saules et des platanes torturés par les caprices du flot. Et le ciel bleu cobalt, débarrassé de sa suie d'orage, célébrait entre les futaies le retour des miroirs aquatiques au confluent desquels se mariaient en blanc, en jaune, en mauve, les nénuphars et les iris, les hibiscus et le chèvrefeuille. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.